Deuxième partie. Au milieu d'hommes, de femmes, d'enfants, d'une foule amassée en une minute dans la gare, un garde municipal avait fait monter la fille Elisa dans un wagon portant service des prisons. Cette foule, un petit oiseau envolé à tire-d'aile du toit du wagon à l'ouverture de la portière, les yeux de la condamnée voyaient cela vaguement, et aussi les barreaux peints en imitation sur la voiture. Elle était là, bien vraiment, graciée pour de bon. La guillotine ne lui couperait pas le cou. Son corps en deux morceaux ne serait pas couché dans la froide terre qu'elle voyait couverte de neige. Demain, avant le jour, les curieux battant la semelle sur la place de la Roquette, en attendant son exécution, ne la réveilleraient plus, elle vivrait. Oui, le train était parti. Elle s'éloignait de la place de la mort. On ne voulait pas décidément la faire mourir. Au fait, qu'est-ce qu'on lui avait dit là-bas? Elle n'avait compris qu'une chose, c'est qu'elle ne mourrait pas. Ah oui, maintenant elle se rappelait. Une cloche qu'on avait baptisée dans une paroisse, le curé qui avait demandé sa grâce. Elle vivrait, elle vivrait. Et elle partit d'un éclat de rire strident. Toute honteuse aussitôt, elle fouillait de ses regards l'ombre autour d'elle. En montant, elle n'avait pas fait attention s'il y avait d'autres voyageuses. Elle était seule. Alors elle se remettrait à rire nerveusement, par deux ou trois fois, secouée par une hilarité farouche qu'elle ne pouvait arrêter et qui repartait malgré elle. La condamnée redevenait sérieuse et au bout de quelques instants s'échappait de ses lèvres soupirantes. « Ben, c'est pas de moi qu'on peut dire que j'ai eu une bien belle marraine. » Le train marchait à toute vitesse avec un fort mouvement de lacet. Elisa était tombée dans une absorption où ses pensées emportées dans la nuit du wagon par la vitesse très sautante du chemin de fer, avec quelque chose du noir cauchemar d'un vivant que roulerait en tâtonnant sous l'eau d'un océan un bâtiment sombré. Un coup de sifflet, le nom d'une station appelée par un employé, des pas lourds sur le sable à côté d'elle, réveillèrent la sombre songeuse. La curiosité de voir, tout à coup, prenait Elisa. Sous le banc en face d'elle, tout en bas, dans le bois travaillé par la gelée et le dégel, une petite fente laissait passer une filtrée de jour. Elle se jetait à plat ventre, collait son œil à la fissure. Un homme et une femme, dans le sautillement d'enfants entre leurs jambes, allaient, par un petit chemin de campagne, vers une maison dont la cheminée fumait. Le ménage marchait heureux avec la hâte des gens qui, après une courte absence, sont pressés de retrouver le coin du feu de la famille. Et le voyage continuait, commençant à paraître éternel à Elisa, semblant ne devoir jamais toucher à son terme, quoiqu'elle sentit bien qu'il n'y avait pas très longtemps qu'elle avait quitté la gare. Avec le brusque mouvement d'une mémoire qui se rappelle une chose oubliée subitement, elle tirait du milieu du linge, qui remplissait un petit panier de paille noire, un morceau de papier graisseux qu'elle glissait dans ses cheveux, le dissimulant sous l'épaisseur de son chignon. Les coups de sifflet, les appels des stations, les descentes des voyageurs se succédaient. Mais à mesure que la condamnée approchait du lieu de sa détention, le désir d'arriver, elle ne l'avait plus. Et une espèce d'épouvante irraisonnée de l'inconnu qui l'attendait lui faisait battre le cœur comme le cœur de ces tremblants oiseaux qu'on tient dans sa main. Était-ce là? Elle croyait avoir entendu crier le nom de l'endroit qu'on lui avait nommé à Paris. Instinctivement, elle se rencogna dans sa place avec le pelotonnement d'une enfant, se faisant toute petite sous la menace d'une chose qui lui fait peur. Non, non, ce n'était pas encore là. Tout le monde était descendu. Non, non, on n'était pas venu encore la chercher. La portière s'ouvrit brusquement, une voix dure lui dit de descendre. Elle se levait, mais ses yeux déshabitués de la lumière, ne voyant depuis plusieurs jours que les ténèbres de la chambre du condamné à mort, eurent un moment un éblouissement de l'aveuglant soleil d'hiver qui éclairait le dehors, et comme son pied hésitant tâtonnait les marches pour descendre, l'homme à la voix dure la poussa assez rudement. Elle avait eu à Paris une terreur de la foule amassée autour d'elle, au cri de « L'assassine, v'là l'assassine !» Elle redoutait cette foule à la gare de la ville où se trouvait la prison. Personne n'était plus là. On avait attendu, pour son transfèrement, que la station fût vide. Elisa cherchait de l'œil la voiture qui devait la conduire à la prison, quand deux hommes vêtus de bleu s'approchèrent de chaque côté d'elle et la firent marcher entre eux. L'administration faisait l'économie d'un omnibus quand le service des prisons ne lui amenait qu'une ou deux condamnées. Elle côtoyait entre ces deux gardiens silencieux des maisons de faubourg. Les rares passants qui la croisaient ne levaient pas même la tête. Il y avait une telle habitude à Noirlieu de voir tous les jours passer les prisonnières. Elle prenait une rue montante entre des jardins dont les arbres se penchaient au-dessus des murs. Du givre était tombé la nuit. Il avait gelé le matin. Le soleil brillait alors. Les arbres qui avaient conservé leurs feuilles paraissaient avoir des feuilles de cristal, et les enveloppes glacées de ces feuilles tombaient à tout moment, faisant dans la rue autour d'elle, sur le pavé, le bruit léger de verre cassé. Elle croyait passer sous une ancienne porte de ville où dans la vieille pierre avait pris racine un grand arbre. Elle était comme mal éveillée et ses pieds la portaient, sans qu'elle se sentît marcher. À un détour, elle se trouva inopinément en face d'une grille peinte en rouge, toute grande ouverte. Elle gravissait alors, avec un pas qui se raidissait dans la résolution d'en finir, une ruelle resserrée entre des clôtures de jardinets, aux grands rosiers échevelés, dont l'un la faisait tressaillir en lui égratignant le cou. De loin, devant elle, elle pouvait lire, en lettres noires, sur le plâtre blanc d'une grande porte cochère, Maison centrale de force et correctionnelle. La porte cochère s'ouvrait. Elle se figurait déjà enfermée entre quatre murs. Quand elle voyait encore du ciel au-dessus de sa tête, elle respirait longuement, presque bruyamment. Elle était dans une cour, aux angles de laquelle s'élevaient quatre bâtiments neufs, bâtis d'une brique à la couleur grise. Dans cette cour balayaient des femmes en cornettes rouges, en casaquins bleus, en sabots, des femmes dont les regards en dessous avaient une expression qu'elle n'avait point encore rencontrée dans les yeux des créatures en liberté. Les deux gardiens entre lesquels elle marchait toujours la firent se diriger vers un perron s'avançant au bas d'une manière de donjon encastrée dans les constructions modernes. Elle entrait dans un vestibule où elle apercevait un petit poêle, un bureau couvert de gros registres dans le renfoncement d'une fenêtre et par la porte d'un cabinet entrouvert, de pied d'un lit de sangle. L'homme du guichet lui demandait son argent, ses bijoux. Elle retirait de sa poche son porte-monnaie, ôtait de son cou une petite médaille, détachait de ses oreilles de grosses pendeloques. L'homme lui faisait remarquer qu'elle avait encore une bague à un doigt. C'était une pauvre bague en argent avec un cœur sur un morceau de verre bleu. Elle l'enlevait de son doigt, comme à regret, tout en regardant, sans que ses yeux puissent s'en détourner, la barrière séparant la pièce en deux. Une barrière en gros pieux et carrie, comme elle se rappelait en avoir vu autour des éléphants un jour qu'elle avait été au jardin des plantes. Fixant la fermeture, la porte de fer, avec des narines qui se gonflaient et le hérissement d'un animal sauvage qui flaire la cage où il va être encagé, elle s'oubliait à donner sa bague qui lui fut prise des mains. Le guichetier avait fini de copier sur un registre un papier que lui avait remis l'un des conducteurs, quand l'autre, au grand étonnement d'Elisa, lui faisant tourner le dos à la porte intérieure de la prison, l'amena par un passage entre deux hauts murs à une petite maison dans un jardin. Après la visite, le gardien la reprenant au seuil de l'infirmerie, la ramenant près de la grande porte cochère de l'entrée, lui faisait gravir un escalier en bois où montaient les odeurs de lessive et de pain chaud. Elle était à peine entrée dans une grande pièce dont les deux fenêtres sur une cour étroite lui montraient, séchant sur des cordes, des centaines de chemises de femmes, qu'une sœur à la robe grise, au visage sévère, lui commanda de se déshabiller. Elle commençait à se dévêtir avec des poses, des arrêts, des mains ennuyées de dénouer les cordons, des gestes suspendus, une lenteur désireuse de retenir sur son corps quelques instants de plus les vêtements de sa vie libre. Elle voyait, pendant qu'elle éparpillait autour d'elle les pièces de sa pauvre toilette, une condamnée prendre sur les rayons un madras à raies bleues, une robe de droguet, un jupon, une chemise de grosse toile pareille à celle qui séchait dans la petite cour, un mouchoir, des bas de laine, des chaussons, des sabots, baptisés dans le langage de la prison du nom d'escarpins en cuir de brouette. Elisa était enfin habillée en détenue, avec sur le bras le double numéro de son écrou et de son linge, le double numéro sous lequel, sans nom désormais, elle allait vivre son existence d'expiation. La sœur examinait de la tête aux pieds la nouvelle habillée, disait un mot à la condamnée de service qui s'approchait d'Elisa, portait les mains à sa cornette. Il y avait dans le haut du corps de la prisonnière l'ébauche violente d'un mouvement de résistance qui tombait aussitôt qu'elle sentait les mains touchant à sa coiffure, se contenter de rentrer sous son madras les deux couettes de cheveux de ses tempes. Cela fait, la condamnée de service ramassait par terre les vêtements d'Elisa, les empaquetait dans une serviette à laquelle elle faisait un nœud. La sœur avait griffonné des chiffres sur un morceau de peau que l'autre attachait sur le paquet avec une aiguille de fil. Puis les deux femmes portaient le paquet dans la pièce voisine. Elle suivait machinalement la sœur, sans que la sœur lui fît défense d'entrer. C'était un petit cabinet appelé le magasin. Le long des quatre murs, des rayons de bois blanc montaient du parquet jusqu'au plafond. Il y avait sur les planches, pressées, tassées, empilées, accumulées, des paquets semblables à celui que les deux femmes venaient faire de ses effets. Les paquets étaient si nombreux que la place commençait à devenir étroite pour eux et que déjà les derniers bouchaient presque entièrement la petite fenêtre qui éclairait la pièce. Le plafond, on ne le voyait pas. Il disparaissait sous les paniers de paille jaune et noire qui étaient pendus. Au montant d'un rayon, on s'apercevait, accroché à un clou, une robe neuve de laine brune. « Ah, déjà ?» dit la sœur. « Oui, ma sœur, » répondit la détenue, montée sur une chaise et en train de placer le paquet d'Elisa dans l'enfoncement de la fenêtre. « C'est la robe de 26 francs pour celle du quartier d'amendement qui va au couvent. » Et la détenue se mit à faire entrer de force au milieu des paniers déjà suspendus, le panier d'Elisa. Lassée, brisée, anéantie par les fatigues de la journée, et le corps secoué de temps en temps par des soubresauts, comme en gardent longtemps les membres des mineurs après un enfouissement dont ils se sont sortis vivants, Elisa regardait bêtement les parquets. Un de ces paquets, un peu défait, laissait couler au dehors, taillé dans une mode qui remontait à une trentaine d'années, un vieux morceau d'étoffe, comme Elisa se rappelait, quand elle était toute petite, à en avoir vu sur le dos de sa mère. Et Elisa avait un moment la vision d'une femme, entrée toute jeune, ressortant toute vieille, sous cette robe arrangée d'un quart de siècle. Il y avait encore des paquets dont la toile d'enveloppe était devenue jaune et dont les rentrants du nœud enfermaient dans un liseré de poussière des ailes de mouches mortes. Chose bizarre, chez Elisa, la vue des objets était comme diffuse, ne lui apportait rien de leur ensemble, de leur aspect général, et cependant d'infiniment petits détails entraient et se gravaient dans sa tête presque malgré elle. Elisa remarquait, alors que tous ses paquets portaient sur un morceau de peau quelque chose d'écrit. Elle s'approchait le plus près et lisait sur l'un d'eux, numéro 3093, entré le 7 mars 1849, sorti le 7 mars 1867. Ces deux dates, ça représentait bien des années, mais au juste, combien d'années ça faisait-il? Et comme dans le vide de sa cervelle, dans la défaillance et l'espèce d'évanouissement de son être, elle ne trouvait pas tout de suite, Elisa se mettait à compter sur ses doigts 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855. Mais au milieu de son compte, elle laissait tomber et se rouvrir ses mains. Qu'est-ce que lui faisaient les années? Pour elle, il n'y avait pas d'années. Pour elle, c'était toujours, toujours, toujours. Elisa avait entendu refermer sur elle la porte de l'écrou. Elle s'était enfin trouvée dans l'intérieur de ces murs qui ne devaient laisser ressortir de la prisonnière qu'un corps dans un cercueil. Elle avait couché dans le lit large de 70 centimètres, au matelas de 12 livres, à la couverture de laine brune. À 5h30, le lendemain, elle se levait, entendait la prière dite par la sœur, descendait prendre un morceau de pain au réfectoire. À 6h30, elle remontait dans la salle de travail, cousait jusqu'à 9h. À 9h, elle redescendait au réfectoire, mangeait la gamelle de légumes secs de 3 décilitres et boire l'eau de la cruche de grès du déjeuner. À 9h30, elle faisait la promenade du préau. À 10h, elle remontait dans la salle de travail, cousait jusqu'à 4h. À 4h, elle redescendait au réfectoire, manger la gamelle de légumes et boire l'eau de la cruche du dîner. À 4h30, elle refaisait la promenade du préau. À 5h, elle remontait dans la salle de travail, cousait jusqu'à la nuit. Et à la nuit, elle se couchait. Tous les jours, c'était la même journée, les mêmes occupations, la même promenade, la même nourriture, les mêmes descentes et les mêmes ascensions d'escalier, revenant aux mêmes heures. Des jours, beaucoup de jours, se passèrent, sans qu'Elisa eût la notion de son existence pénitentiaire, le sentiment du châtiment qui la frappait, la conscience de la mortification de son corps et de son esprit. Ainsi que les gens assommés de coups sur la tête et restés debout sur leurs pieds, elle vivait sa vie nouvelle dans une sorte d'assoupissement cérébral qui l'empêchait de voir, de sentir, de souffrir, subissant des choses, passant par des milieux, accomplissant des actes dans une stupide absence d'elle-même. Un matin, la récréation la réveilla, la fit tout à coup revivante pour les douleurs humaines. Chaque jour, dans le préau, haut mur, et sans arbres et sans herbes, sur la largeur d'un étroit sentier formé de deux briques posées l'une contre l'autre, dessinant un carré rouge au centre du pavage gris de la cour, un pavage de fosse à bêtes féroces, les détenus, espacés par 1 mètre de distance, doivent se promener l'une à la file de l'autre, les mains au dos, le regard à terre. Elisa, ce jour-là, avait déjà parcouru une vingtaine de fois l'inexorable carré, quand par hasard, sa vue se soulevant de terre et montant au bleu du ciel, aperçut avec des yeux subitement ouverts à la réalité le dos de ses compagnes. Elle eut peur, et ses mains instinctivement se mirent à tâter sur elle la vie de son corps. Un moment, au milieu de ces allants immobiles, de ce processionnement automatique, de cette marche dormante, de cette promenade silencieuse, au claquement régulier et mécanique de tous les sabots tombant dans les pas creusés par les sabots du passé, un moment, il sembla à la misérable fille être prise dans l'engrenage d'une ronde d'êtres ayant cessé de vivre, condamnée à tourner éternellement sur ce champ de briques. Et la promenade continua, chassant des remparts avec la tristesse inexprimable de son bruit mort, les promeneurs de noirs lieux. Dans la salle de travail où avait été placée Elisa, contre le mur de droite, au-dessus de la petite table de l'écrivain et de sa cornette rose, une sœur de la sagesse, dominant du haut d'une chaire les travailleuses, se tenait debout, les mains abandonnées, en les plis raides d'une femme de pierre d'un saint sépulcre. En face d'Elisa, sous un crucifix ainsi qu'un grand œil divin ouvert sur la salle, le bleu d'un cadre portait en lettres blanches « Dieu me voit », et au-dessous de l'œil divin, très souvent, il y avait, au trou imperceptible fait par un clou dans la porte, l'œil de l'inspecteur entourné dans les corridors. Les prisonnières, le visage plein, le teint uni et blanc et un peu bisdé, convalescente d'hôpital, avaient des têtes carrées, des têtes de volonté obtuse, d'endurcissement, de méchanceté noire. Leur physionomie était comme fermée, mais sous l'ensevelissement hypocrite de la vie de leurs traits, l'on sentait des passions de feu couvant. Et leur regard, qui faisait le mort, se relevant lentement après le passage des personnes, leur dardait dans le dos jusqu'à la porte la curiosité de la haine. Elles étaient occupées à toutes sortes de travaux. Les unes confectionnaient de la lingerie, les autres fabriquaient des corsets pour l'exportation, les autres découpaient des boutons à l'emporte-pièce, les autres tressaient des chapeaux de paille, les autres assemblaient des chapelets. Beaucoup faisaient marcher une couseuse mécanique, trois ou quatre seulement brodaient. De toutes ces rangées de femmes courbées sur leur ouvrage, de toutes ces détenues semblablement vêtues, de toutes ces têtes coiffées, de tous ces dos recouverts de madras à laine bleue, se levait, dans le jour du nord du grand atelier, un brouillard bleuâtre, une luminosité froide, reflétée de couleurs de misère, de prison, d'infirmerie, que faisaient encore plus tristes les fleurs aux soies éclatantes entr'ouvertes sur le métier des brodeuses. Le travail était incessant, toujours recommençant, sans rien de ce qui anime, encourage, réjouit le travail, sans une parole, sans un mot, sans une exclamation par laquelle se confesse tout haut le plaisir de la tâche terminée. Dans la manufacture muette, en plein silence continu, seul un coup de dé frappé de temps en temps sur le dossier d'une chaise avertissait la prévôte qu'une femme avait fini l'ouvrage donné et qu'elle attendait l'autre. Le silence continu. Elisa eut bien à souffrir à l'effet de se faire à la dure règle. C'est tellement contre nature pour une créature humaine de se déshabituer de parler. La parole. Mais n'est-elle pas une expansion spontanée, une émission irréfléchie, le cri involontaire, pour ainsi dire, des mouvements de l'âme? La parole. N'est-ce pas la manifestation d'une existence d'homme ou de femme tout aussi bien que le battement d'un pouls? Et comment un être vivant, à moins d'avoir la bouche cadenassée, ne parlerait-il pas aux êtres vivants au milieu desquels il vit, dans le contact des promenades, dans le voisinage des occupations, dans l'interrogation des regards mêlés, dans le coudoiement des corps par les ateliers étroits, dans cette communauté côte à côte de toute la journée, dans ce qui fait naître enfin et produit et développe partout ailleurs la parole. Ne jamais parler. Elle y tâchait. Mais elle était femme, un être dont les sentiments, les sensations, l'impressionnabilité d'enfant, bon gré mal gré, jaillissent au dehors, en une loquacité gazouillante, un verbe diffus, des paroles, beaucoup de paroles. Ne jamais parler, ne jamais parler. Mais les ordres de religieuses femmes qui ont fait le vœu de silence n'ont en aucun temps pu s'y astreindre rigoureusement. Ne jamais parler. Mais elle, elle avait encore à triompher de ces petites colères folles, particulières aux femmes de sa classe, et qui ont besoin de se répandre, de se résoudre dans du bruit, dans de la sonorité criarde. Ne jamais parler. On la voyait perpétuellement, les lèvres remuantes, comme mâchonner quelque chose qu'elle se décidait à la fin à ravaler avec une contraction dans la face. Oh, ne jamais parler, ne jamais parler. À Noirlieu, était-ce une pure légende provinciale? Les gens de la ville racontaient aux étrangers que le silence continu donnait aux femmes de la prison des maladies de la gorge et du larynx, et que pour combattre ces maladies, on forçait les détenus à chanter le dimanche à la messe. Dans la salle de travail, le hasard avait placé Elisa entre deux femmes, coudes à coudes avec elle du matin au soir. L'une était la doyenne de la prison. Elle avait ses 36 ans accomplis de détention. C'était une grande et sèche et maigre paysanne, sur laquelle les rigueurs pénitentiaires ne semblaient pas mordre, une créature de fer que rien ne paraissait faire souffrir, et qui gardait sa santé et sa raison au bout de ce nombre homicide d'années de silence. Elle avait été condamnée aux travaux forcés pour, de complicité avec son père, avoir assassiné sa mère et de ses mains de fille, fait enfoncer sous des pavés le corps encore plein de vie surnageant dans un puits. Elle effrayait avec son impassibilité, avec la fermeture de son visage, avec le mutisme de toute sa personne. Sans que son corps bougeât, sans que son œil regardât, lorsqu'une punition tombait sur une prisonnière de la salle, Elisa entendait l'implacable vieille femme ruminer entre ses dents serrées et se dire dans un souffle à elle-même « Oh les autres, qu'est-ce que ça me fait? Il faut que chacun mange sa peine. » Celle-ci faisait un peu peur à Elisa. L'autre voisine d'Elisa était une toute jeune femme, victime de ce règlement odieux qui mêle et associe dans une existence commune la femme condamnée à 1 an et à 1 jour de prison et la femme condamnée aux travaux forcés de la perpétuité. La jeune détenue se trouvait sous le coup d'un jugement pour adultère. Courbée en sa honte, la main heureuse, toujours penchée sur son métier à tapisserie, de ses yeux qui se mouillaient involontairement, laissait de temps en temps tomber une larme qui faisait scintiller un moment une goutte de rosée sur une fleur de soie. Celle-là, Elisa la méprisait, la trouvant trop lâche. Chez Elisa, chez cette nature sauvageonne qui avait toujours tenu de la chèvre rebellée, prête à repousser à coups de tête la main pesant sur elle, cet instinct de révolte était devenu plus accentué depuis que cette main était la main de la justice. Toutefois, il faut le dire, le désintéressement de son crime faisait relever le front à la criminelle. Dans ce monde de femmes presque entièrement composé de voleuses, la superbe de sa probité donnait à tout l'être d'Elisa quelque chose de hautain et d'indigné. La rébellion de son cœur mutiné ne se manifestait par aucun acte, aucune parole, aucune infraction à la discipline. Elle était dans son regard, dans son attitude, dans son silence, dans le bouillonnement colère d'un corps terrassé, dans le frémissement d'une bouche qui se tait. Aussi, supérieur, directeur et inspecteur étaient enclins à la sévérité contre l'impénitente qui s'était faite une ennemie plus redoutable dans la prévôte chargée de la distribution et de la surveillance de son travail. Élisa lui avait brutalement laissé voir le dégoût qu'elle éprouvait pour la comédie d'amendement, la basse hypocrisie, le mensonge sacrilège de religiosité au moyen desquels une détenue devient trop souvent, dans une maison de détention, une contre-maîtresse. Être vivante et redouter d'être pour les autres ainsi que la mémoire d'une personne morte, se voir abandonnée de ceux qui ont été vos parents, vos amis, vos connaissances, douter si une pensée affectueuse vous plaint, ne se sentir plus rattachée ici-bas par l'émotion lointaine d'un souvenir, porter sa peine toute seule, sans l'écho d'un mot compatissant, enfin ne pas toucher de près ou de loin à cette pitié ambiante dont le réconfort dans les peines inconsolables aide le moral humain à souffrir et à continuer de vivre en souffrant, tel était le sort d'Elisa, qui depuis 2 années n'avait point été demandée une seule fois au parloir, n'avait pas reçu une lettre, n'avait pas obtenu un signe de vie de ceux avec lesquels elle avait vécu, enfant, jeune fille ou femme. Elisa avait cependant bien peiné pour n'être point punie pendant les 60 jours de 2 mois entiers, et cela plusieurs fois afin d'obtenir de l'administration la bienheureuse feuille de papier à lettres qui porte en tête « La correspondance est lue à l'arrivée et au départ. Nom de femme, atelier. Les détenus ne peuvent écrire que tous les 2 mois, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas été punie. » Maison centrale de Noirlieu, le... Elisa, donc, dans le besoin de tendresse vague que crée la douleur, avait écrit plusieurs lettres. Elle avait fait la battue de ceux qui portaient son nom. Elle avait, sous le prétexte d'affaires de famille, la seule correspondance qui lui fut permise, imploré l'envoi d'un bout de papier sur lequel un peu d'écriture voulut bien se rappeler qu'elle existait encore. On n'avait pas répondu. Personne n'avait eu la charité de lui jeter l'aumône d'une ligne. Partout le silence et partout l'oubli. La prisonnière avait parfois l'impression d'être enterrée toute vive. Mais un instant, le personnel de la prison, perdant à ses yeux sa réalité, ne lui apparaissait plus que comme les visions et les fantômes d'un épouvantable cauchemar. Cette vie, sans rien savoir des siens, sans rien savoir des autres, sans rien savoir de rien, et la curiosité instinctive de ce qui se passe sous le soleil, et l'intérêt de l'être humain pour les choses de son humanité, et ce besoin de tout individu de participation à la connaissance lointaine des événements quelconques, ne pouvoir les satisfaire jamais, jamais. Oh, cette existence vécue dans l'ignorance cruelle de tout. À mesure que les lentes années se succèdent, au milieu d'un effroi qui vient aux plus bêtes, sentir s'épaissir au fond de soi ce grand et redoutable inconnu. Il y avait des jours où Elisa eût donné une pinte de son sang pour apprendre quoi, où elle n'en avait pas l'idée. Rien, certes, qui l'intéressa personnellement ou la toucha, mais pour apprendre seulement quelque chose, pour qu'il tombât une filtrée de jour dans les ténèbres de son être. Quelquefois, au préau, tout à coup, elle s'arrêtait dans sa marche mécanique, l'oreille tendue à des pas graves de bourgeois qui se promenaient, à des cris d'enfants qui se perdaient dans le lointain. Comme si ses pas, comme si ses cris allaient lui dire du nouveau. 2 ou 3 fois, pendant un espace de 5 ans, la musique d'un orgue monté par hasard sur les remparts lui apporta son bruit, le refrain d'un air à la mode. C'est tout ce qui vint à elle pendant ce long temps des changements de la terre. Un jour, cependant, des vitriers avaient remis des carreaux dans une cour intérieure. Elisa trouva par terre le papier du cornet de tabac de l'un d'eux, un morceau de journal qui ne remontait guère au-delà d'une année. Elle lut les trois ou quatre faits, Paris un peu écorné qu'il contenait, et, à l'atelier, plaçant l'imprimé devant elle, en le dissimulant sous ses petits outils de couteur, dont il semblait l'enveloppe dépliée, elle le regardait pendant son travail, en lisait de temps en temps quelques lignes, avec les yeux que l'on voit à une dévote dans un livre de piété. Un mois, cette découverte la rendit toute heureuse. Puis la nuit, avec son noir secret des choses, se referma sur elle. Elle regardait, jalousement curieuse, ses camarades de salle revenant du parloir avec l'éclaircie d'un court bonheur sur leur figure tout à l'heure assombrie et grise. Parmi celles-là, il y avait la sœur d'une fille avec laquelle Elisa s'était trouvée dans la maison de l'école militaire, et que cette fille venait voir régulièrement tous les 6 mois. Le lendemain d'un jour où la détenue avait été appelée au parloir, ne pouvant résister au tourment de son cerveau affolé de connaître n'importe quoi du dehors, de derrière les murs de la prison, Elisa, dans la descente de l'escalier, feignant de perdre un de ses sabots, se rapprochait d'elle et lui mettait dans la main une rondelle de carton. Elisa, sans qu'on la vît, avait eu la patience et l'adresse de découper dans le pâté relavé de son livre de prière les lettres au moyen desquelles elle avait formé des mots qu'elle avait collés avec de la mie de pain sur le fond d'une boîte à veilleuse. Tous les 6 mois, alors que la femme de l'école revenait, Elisa interrogeait ainsi la détenue, qui lui répondait de la même manière. La nuit était déjà bien avancée. Dans le dortoir installé par l'architecte de la prison, entre le rejoignement étroit de la voûte ogivale de l'ancienne église et que soutenaient de distance en distance des piliers de fonte, dans le sinistre dortoir, bas, resserré, étouffant, mais prolongé à l'infini, les lampes fumeuses n'éclairaient plus, sous les tristes couvertures brunes, que d'une lueur tremblante les formes des prisonnières reposant dans les poses raides et contractées d'un sommeil qui se défie. Le petit jour commençait à bluetter sur les barreaux des fenêtres. La prévôte, en son lit plus élevé, dormait profondément. Toutes les femmes sommeillaient et les songes, qui rêvaient de crimes, étaient muets. Seule, Elisa veillait encore. Un moment, se soulevant dans un allongement qui rampait, elle interrogea longuement le silence et l'ombre, longuement scruta de l'œil le Judas de la logette de la sœur. Cela plusieurs fois. Puis, dans le lit d'Elisa, s'entendit comme l'imperceptible grignotement d'une souris. La tête retombée sur le traversin en une immobilité trompeuse, la prisonnière, d'une seule main, décousait à petit bruit un coin de son matelas. Au bout de quelques minutes, elle retirait de la laine le papier qu'elle avait caché dans son chignon, en chemin de fer, qu'elle avait tenu des années au fond d'une poche, le déménageant tous les 6 mois de sa robe d'hiver dans sa robe d'été, qu'elle avait enfin serrée dans son matelas. Ce papier était une lettre écrite avec du sang, à l'exception d'un seul mot, le mot « mort », tracé par une crainte superstitieuse avec de l'encre ordinaire. L'écriture de sang était devenue bien pâle sur le papier jauni, mais Elisa lisait avec la mémoire de son souvenir, bien plus qu'avec ses yeux. « Ma petite femme !» J'ai eu de la peine et du mal quand je t'ai quitté, parce que ça me fait trop de plaisir quand je te vois. Ça me rend tout sans dessus dessous les journées durant. Ça me bouillonne dans la tête. C'est tout ainsi comme du lait caillé que j'ai dans le cœur. Je fais dans le service la figure du bon Dieu de pitié. Il me paraît que je pourrais pas durer les 15 jours avant de sortir. Tant que c'est comme ça, mon âme, elle reste collée à tes lèvres. Je voudrais être toujours nous deux. Quand il n'y est pas, il y a des choses qui me tirent hors de moi, dans toi. Mais, Lisa, t'as pas fait ma connaissance encore. Et comme j'ai le tempérament amoureux, j'étais tout de même, quand je me mettais à espérer les grandes fêtes, il y a longtemps avant que je sois au régiment. Cependant, j'étais bien croyant à tirer un bon numéro. J'avais mis 3 doigts en manière de triangle dans la boîte. J'avais touché les 3 numéros et puis, tirant le 3e, j'avais bien dit, ainsi comme on me l'a enseigné au pays, mise, mouche, vulle, enfin, c'est bien malheureux pour mon salut éternel d'être venu à Paris, puis de t'avoir rencontré, toi. Ah, que mon âme me dit des remords. Mais c'est plus fort que moi que j'ai pu maîtriser mes sangs. Alors c'est convenu. Puisque c'est ton plaisir, nous irons au nid dans les bois, l'autre dimanche courant. N'aimer que moi, tu l'as juré, l'engagement sur le crucifix. Elisa, tes caresses sont gravées dans mon cœur. Ta bouche, par ses serments, leur a posé un cachet ardent. Elisa, je t'aime, je t'idolâtre, ma petite femme, avec un grand délire amoureux que t'as failli soudre dans toute ma chair. Rien au monde ne peut faire oublier tes caresses et tes baisers brûlants. La mort seule me les ferait oublier. Ton amant pour la vie, Tanchon, fusillé au 71e de ligne. P.S. Mets dans tes cheveux l'odeur qui y était la première fois. La lettre lue. Elisa la gardait longtemps posée sur sa poitrine, sous ses mains croisées, et peu à peu, la vision de la terrible journée lui revenait comme si elle la revivait. C'était un trou noir dans lequel tombait un rayon de soleil, traversé d'envolées de pigeons ramiers, de roucoulements, de froufroudelles, de vols nuants et changeants de couleurs, dans le rapide et incessant passage de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Au milieu de ce tourbillonnement ailé, la fine pluie d'un jet d'eau retombait dans une grande coupe de verre bleu, scellée sur un rocher en coquille d'escargot, et où de petits poissons au frétillement d'argent tournoyaient, tournoyaient sans relâche autour d'un bec de gaz. Attaché à la barre d'une fenêtre, un vieux corbeau qui pouvait bien avoir 100 ans, et paraissait avoir perdu son bon sens d'oiseau, sautillait perpétuellement sur une seule patte. La fenêtre entr'ouverte montrait sur la cheminée, à côté d'une couronne de mariée sous un globe, un troublet à prendre les goujons qui nageaient dans la coupe de verre bleu. Elisa voyait le petit trou noir et ensoleillé, comme si, de la table du restaurant de la halle où elle était assise, le jour de sa dernière sortie, elle regardait encore dans la petite cour intérieure, au-dessus du toit en vitrage de la cuisine. Oh, le bon commencement de journée! Un si beau restaurant pour elle qui n'avait jamais mis les pieds que chez des marchands de vin de barrière. Et les gens à côté d'elle, qui ne faisaient pas le semblant de la mépriser. Et le garçon qui lui disait « Madame » comme au vrai Madame qui était là. Après, on avait pris à Milan, roulé vite comme cela en voiture découverte avec du vent dans les cheveux. Il y avait bien longtemps que c'était le désir secret d'Elisa. Mais sur le quai de Chaillot, elle était descendue. Il avait fallu qu'elle longeât la Seine tout au bord de la berge, et elle allait ainsi, regardant l'eau couler, marchant avec elle. Et quand elle s'était mise à lever les yeux, ils étaient sortis de Paris et bien au loin, dans une espèce de champ à travers un grand filet séchant sur un arbre, elle voyait une sorte de berger, avec un vieux sac de militaire au dos, gardant un troupeau de moutons crottés. Et ça lui paraissait étrange de ne plus retrouver dans le ciel le dôme des Invalides qu'elle était habituée à ne jamais perdre de vue. Alors on s'était trouvé dans le bois de Boulogne. Il faisait bon dans le bois, et puis le petit homme chéri avait dans l'ombre de si gentilles paroles, une si douce voix. Le soldat qu'aimait Elisa n'avait d'un lignard que la tunique sur le dos. Il était, ainsi que s'exprime le peuple, doux à parler, et ses gestes avaient l'enveloppement d'un bras féminin. Il disait en riant qu'il devait cela à l'habitude qu'il avait autrefois de tenir sous sa houlière, par les pluies froides, l'agneau dernier-né de son troupeau. Car jusqu'au jour où il était tombé au sort, il avait été berger. Lui, ce fut lui, pendant bien des années, cette silhouette contemplative qu'on aperçoit à mi-côte des grandes landes, debout, le menton appuyé sur un long bâton, et entouré du tournoiement fantastique d'un chien aux yeux de feu. Sa vie s'était passée dans le vent, la pluie, l'orage, les déchaînements mystérieux des forces de la nature. Depuis l'âge de 8 ans, ses yeux avaient vu les aubes et les crépuscules de chaque jour. Toutes les heures de la terre troubles et voilées, et pleines de visions et d'apparences, il disposait l'esprit du berger à la croyance peureuse aux choses surnaturelles, et peuplant son imagination de toutes sortes de noires interventions des puissances occultes. Il était né sur une terre arriérée, en laquelle s'éternisait le passé d'une vieille province, dans un département lointain, encore sillonné d'antiques diligences, et où se dressait à chaque bifurcation de deux chemins une croix de pierre. Tous les dimanches, d'abord enfant, puis déjà grand garçon, il ôtait sa blouse pour passer la chemise blanche de l'enfant de cœur. Plus tard, il était resté croyant à son catéchisme, captivé par tout le miraculeux qu'il enseigne, si bien que sous le soleil de midi en plein champ, au milieu de ses moutons, il ne manquait pas chaque semaine, à l'heure de l'office, de lire sa messe, et là, perdu, absent, transporté dans une église idéale, il se prosternait comme à l'élévation au tintement de la clochette qui sonnait au cou rebelle du bélier de son troupeau. Cette ferveur se mêlait en lui à ce mysticisme vague et confus que la solitude, la vie en plein air apporte parfois aux natures incultes. Du reste, il était sans lettres, n'avait jamais lu que des almanachs et 2 ou 3 petits livres d'un illuminisme tendre à la glorification de la Vierge Marie. Lorsque l'homme avait apparu dans le jeune homme, une part de cette religiosité s'était tournée vers la femme. Et ses amours, d'abord chastes et dédaigneuses des campagnardes, et toutes à une délicate sainte martyrisée dans un tableau d'une chapelle de sa montagne, avaient brûlé en lui dans un transport de la tête ressemblant à un embrasement divin. La vie du régiment était dure au berger. Il comptait les années, les mois, les journées qui le séparaient du jour où, après ses 7 années de service, il retournerait à ses landes et à ses bêtes. Mais comme il avait la résignation du chrétien, il accomplissait avec docilité et simplicité ses devoirs de soldat, respectueux avec son capitaine, respectueux avec son caporal. Il vivait toutefois dans son coin, allant tout seul de son côté, sans rapport avec les autres, auxquels, cependant, à l'occasion, il rendait de petits services, restant de son pays, ne laissant entamer ni ses idées ni ses habitudes, contemplant à la dérobée les images de la petite semaine sainte qui ne quittait jamais son sac, insensible aux moqueries de la chambrée qui le voyait tous les matins, le premier levé, faire, agenouillé à la tête de son lit, une prière dans le jour à peine naissant, sans entendre dire à ceux qui s'éveillaient « Tiens, Torchon, le v'là déjà occupé à manger sa paillasse !» Ce croyant et ce fervent n'avait pu cependant résister à Paris aux ardeurs sensuelles de son tempérament, à la flamme de ce corps grandi dans les excitations de la nature et l'arôme des sapins, à l'exaltation tendre d'un cerveau amoureux de Dieu et de la femme. Au milieu de ses faiblesses, dans la simplicité de sa foi candide, l'ancien berger était tourmenté de l'appréhension des feux matériels d'un enfer, de la crainte d'un vrai diable qui n'était pas bien sûr de n'avoir pas vu, une fois, sous la forme d'un loup blanc, de la peur de toutes les créations de terreur de l'Église à l'usage des damnés, qu'il croyait en ses souvenirs hallucinés, s'être rapproché de lui dans les ténèbres, dans l'obscurité remuante des heures où le monde s'endort ou s'éveille. Et ces effrois de réalité pour lui non douteuse, non lointaine mais menaçante de tout près, troublaient d'autant plus son être, qui se sentait tous les jours plus incapable de résister à la femme, plus faible contre la tentation de sa chair. Parlant à une femme, parlant à Elisa sous des arbres, par ce jour de printemps, la parole de cet homme au pantalon garance était une sorte d'invocation, une effusion presque priante et délirante, un parler d'amour ou des mots revenant des trois livres amoureusement pieux qu'il avait lus, en faisait une langue de dévotion, appuyée de la douceur de gestes qui semblait envelopper d'une caresse l'agneau dernier-né de son troupeau. Elisa et le soldat étaient donc tombés dans le bois de Boulogne. Des grandes avenues, ils avaient été aux petites allées. Le soldat ne disait plus rien. Et Elisa avait pour le bras auquel elle s'appuyait des caresses qui tapaient doucement, tout en arrachant d'une main distraite le long du chemin qu'il suivait, de hautes herbes des champs. Il marchait ainsi dans le bois qui devenait plus épais quand il se trouvait devant une grande porte où se voyait la broussaille fleurie blanche et rose de grands rosiers grimpants. Le cimetière. Le cimetière qui n'en était plus un. Il lui semblait encore lire sur le vieux plâtre lézardé de sa porte « Ancien cimetière de Boulogne ». Et tous les détours et tous les circuits de petits bois ignorés, ouverts le dimanche, se représentaient sous ses yeux. D'abord, elle avait voulu en faire tout le tour, comme on fait le tour d'un lieu inconnu et attirant, allant aux recoins secrets par des sentiers effacés, dans de petits chemins que barraient et refermaient des rosiers devenus sauvages, et défendant le passage avec des rejets fous et des épines meurtrières. Puis, lasse comme une femme qui n'a pas l'habitude de marcher, elle s'était laissée tomber près d'un monticule sous lequel dormait un enfant, un tertre vert tout mangé de marguerites. Elle était tout emplie d'une tranquille et pure bonheur où l'enveloppement de la mort, de cette mort déjà ancienne et qui avait perdu son horreur, mettait je ne sais quoi de doucement recueilli. Lui, silencieux, il s'était couché un peu au-dessous d'elle, une joue posée sur la fraîcheur de l'herbe. À travers sa robe, elle sentait la chaleur de son visage. Instinctivement, elle s'était levée et dirigée du côté de la porte, quand il l'avait forcée à se rasseoir un peu plus loin, sur un angle de pierre défoncé, d'où tombaient sur eux de grandes branches pleurantes. « Non, non !» C'était Elisa qui se relevait brusquement, marchant encore une fois vers la sortie du cimetière. Elle avait au-dedans d'elle le pressentiment qu'un malheur allait arriver, et cependant ses pieds étaient lents à la porter dehors. Elle marchait à petits pas et, tout en marchant, avait tiré son couteau dont elle ratissait les épines des branches de rosier qu'elle glissait dans son bouquet d'herbes des champs. Elle était arrivée dans un angle du cimetière, le long de la loge ruinée du gardien d'autrefois, dans un endroit où le terrain s'abaissant, en se relevant, avait comme des ondulations de vagues. Deux ou trois personnes, entrées par hasard, après un regard jeté en ce lieu abandonné, étaient ressorties. Lui, alors, s'allongeait dans un des creux comme s'il voulait un peu sommeiller. Elle s'asseyait à ses côtés. et tout en arrangeant son bouquet et en faisant passer son couteau d'une main dans l'autre, avec les caresses calmantes que les mères promènent sur le visage de leurs enfants, de sa main libre, elle ferme les yeux ardents de son amant en lui disant « Dors !» Soudain, sans une parole, sans un mot, elle sentait sur elle les violences et la brutalité d'un viol. Et dans l'effort rageur qu'elle tentait pour se dégager de l'étreinte furieuse qui lui faisait mal, elle avait l'impression d'être souffletée par les deux mains dénouées autour de son cou. « Ne me tente pas, je vois rouge !» s'écriait Elisa, dressée toute droite, son couteau à la main. Elisa, chez laquelle la courte lutte avait fait inventer au cerveau la folie d'une de ces homicides colères de prostituée. Ah, ce moment, elle ne se le rappelait que trop. Il faisait un coup de soleil brûlant comme il en fait en avril. L'air était tout bourdonnant de petites bêtes volantes. Des odeurs sucrées ressemblant au goût du miel des cerisiers en fleurs de son pays montaient des grandes broussailles couchées sur les tombes. Il n'y avait pas encore de feuilles aux arbres, mais tout plein de bourgeons gonflés et luisants. Et au milieu de cela, elle voyait devant elle le visage de son amant qui avait sur la figure un rire bête et tout drôle. Oh, cela avait duré au pas plus qu'un rien, une seconde. Au bout de quoi il s'était élancé sur elle, sur le couteau, tombant à genoux, cherchant, tout blessé qu'il était, à l'envelopper, à l'embrasser de ses bras défaillants. Oui, c'était bien ainsi que les choses s'étaient passées. Mais les autres coups de couteau, ah, voilà. Quand elle avait vu couler le sang, était-ce assez singulier tout de même? Alors elle avait été prise par un vertigo, par un besoin de tuer, par une furie d'assassiner. Elle l'avait frappé encore de 4 ou 5 coups, criant pendant qu'elle frappait, comme qui dirait un enragé en train de mordre, criant à l'assassiner « Mais tiens-moi, tiens-moi donc !» Au fait, pourquoi n'avait-elle pas confié cela à son avocat, à personne? Après tout... Ce n'était pas bien intéressant. Puis quoi, elle, la dernière des dernières, elle, une inscrite à la police, et dans tant de maisons de la province et de Paris, il aurait fallu avouer qu'il lui était tout à coup, comme ça, poussé l'envie d'aimer, comme une jeune fille qui n'aurait pas fauté, comme une toute jeune honnête fille. Non, ce n'était pas les choses à dire. On aurait trop ri d'elle. Enfin, bien sûr, elle aurait été toujours condamnée puisqu'elle avait tué. Mais on n'aurait pas cru peut-être que ça avait été pour les 17 francs qu'on n'avait plus retrouvés sur lui. Et dans son étroit petit lit, réfléchissant aux impulsions mystérieuses et secrètes auxquelles elle avait obéi, auxquelles elle ne comprenait rien, elle finissait par se demander comment elle avait pu ce jour-là être si entièrement abandonné du bon Dieu.